Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver. Par les temps qui courent, tous les soirs, c'est un entretien d'une heure avec les artistes dans l'actualité culturelle. Et ce soir, c'est la metteuse en scène Marie-Josée Malis.
Un tango, une danse, un baiser.
Si tu peux taper, peut-être taper.
Par les temps qui courent.
Ça y est, puis va-t-il.
Marie Richeux.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Je ne puis refuser mon cœur à tout ce que je vois d'aimable, et dès qu'un beau visage me le demande, si j'en avais 10 000, je les donnerais tous. Les inclinations naissantes, après tout, ont des charmes inexplicables, et tout le plaisir de l'amour est dans le changement. On goûte une douceur extrême à réduire par 100 hommages le cœur d'une jeune beauté, à voir de jour en jour les petits progrès qu'on y fait, à combattre par des transports, par des larmes et des soupirs, l'innocente pudeur d'une âme qui a peine à rendre les armes, à forcer, pied à pied, toutes les petites résistances qu'elle nous oppose, à vaincre les scrupules dont elle se fait un honneur et la mener doucement où nous avons envie de la faire venir. Mais lorsqu'on est maître une fois, il n'y a plus rien à dire, ni rien à souhaiter. Tout le beau de la passion est fini et nous nous endormons dans la tranquillité d'un tel amour. Si quelque objet nouveau ne vient réveiller nos désirs et présenter à notre cœur les charmes attrayants d'une conquête à faire. À l'acte 1, Don Juan nous dit déjà énormément de choses. Marie-Josée Malis, vous mettez en scène ce grand texte de Molière en ce moment au Théâtre de la Commune à Aubervilliers, et ce jusqu'au 14 octobre. C'est une reprise. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, merci.
Et avant vous, entre autres, Louis Jouvet.
Molière, à l'égal de Pascal ou de Bossuet, il pose au spectateur l'interrogation véritable d'un moraliste véritable. C'est l'angoisse de l'homme vis-à-vis de son destin. C'est de salut et de damnation qu'il est question dans le Don Juan de Molière. Certes, sa pièce accuse de nombreuses sources. Elle témoigne d'éléments épars, d'emprunts épars. Elle vient à un moment que les biographes de Molière considèrent comme très particulier, par l'interdiction de Tartuffe, dont Tartuffe vient d'être l'objet 8 mois auparavant. Mais ceci n'explique en rien l'originalité vigoureuse, l'extraordinaire qualité de l'œuvre. Avec des matériaux déjà utilisés et appauvris, avec des personnages fanés, Molière, dans la généalogie de l'art dramatique, donne naissance à un héros nouveau. Dans ce merveilleux 17e siècle, Don Juan, en effet, comme Don Quichotte, naissent en Espagne, presque à la même heure. Et l'un comme l'autre, n'ont aucun antécédent dans la littérature. C'est Molière qui donnera à Don Juan sa réputation universelle. C'est par lui, par Molière, que ce héros occupe depuis toujours les esprits. Et c'est pourquoi cette pièce nous occupe encore aujourd'hui. Peut-être est-ce là une des raisons inconnues et souterraines qui me l'ont fait choisir. Ce qui inquiète et passionne l'humanité, c'est la naissance et le passage des dieux, des saints et des héros.
C'est un Louis Jouvet animé en 1947 qui parle de ce texte de Molière. Et peut-être, avant de vous demander vos propres réactions, moi, ce qui me frappe en réécoutant cet archive, c'est le nombre de références à l'inconnu, à l'inquiétude, à l'angoisse, au souterrain, au non-su qui lui font aller vers ce texte de Molière.
Ah oui, c'est magnifique, et je connais cette archive, elle est très très émouvante, parce qu'il dit au fond qu'il va vers le texte parce que c'est une énigme. Il est complètement polarisé comme ça par la hauteur d'une question, d'où le fait qu'il parle d'héroïsme. En fait, un héros, c'est ça au fond, c'est quelqu'un qui porte avec lui une énigme et qui interroge l'humanité dans ce qu'elle a de quasiment indéfinissable. Et dans la suite de l'archive, Jouvet dit que voilà une pièce qu'on ne peut comprendre qu'en la mettant en scène, en un sens en devant décider pour elle au moment de la mise en scène, quelque chose, mais qui, une fois que la mise en scène aura été faite, se réouvrira comme énigme pour le suivant, en fait. Donc c'est comme si les mises en scène stabilisaient un petit peu l'interprétation, de manière provisoire. On fait une hypothèse, on a le courage de la mettre en forme, mais après la pièce, l'immensité se réouvre et nous appelle de nouveau. Et c'est très 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 beau ça.
Il dit aussi que c'est une pièce qui accuse de nombreuses sources, et par ces mots-là assez beau, il le remet dans une tradition littéraire et fait de Don Juan quelque chose qui emprunte au passé, qui en fait un mythe, mais qui a, comme tous les mythes, une histoire. C'est quelque chose qui vous a aussi intéressé, Marie-Josée Malis, les origines littéraires de ce Don Juan que, d'une certaine manière, Molière aussi fixe avec sa pièce au XVIIe siècle.
Non, j'ai pas vraiment fait d'études comparatistes comme ça sur comment on peut faire un effet sur Faust ou Don Juan, enfin, les différentes versions. J'ai pas...
Comme ça bouge, comme ça vit.
Non, j'ai pas fait ça. Non, j'ai essayé vraiment comme le fait Jouvet, enfin, à ma manière plus, voilà, comme je peux. J'ai essayé, je me suis dit, ah, au moment où j'ai décidé de monter Don Juan, je me suis dit, voilà, je vais choisir ce Molière-là parce que je le comprends pas. Voilà, c'était vraiment ça. Et je me demandais du coup, parce qu'il y a un péril hein, moral dans la pièce en fait. Hein. Au fond, on ne sait pas si Don Juan est un type vraiment immoral, voire dangereux, ou s'il a quelque chose de sublime à nous dire, qui soit bon pour l'humanité entière. Donc c'était plutôt ce péril-là qui était comme une réquisition pour moi.
Comme un péril du jugement.
Ouais. Oui, bien sûr. Ce que vous avez lu là le montre très bien. Cet homme est-il, par exemple, anticipe-t-il, par exemple, une figure sadienne? Est-il quelqu'un qui traverse le monde pour jouir des autres, sans lendemain? Ce serait, dans ce cas, une figure gravissime, en fait, au fond, qui ouvre comme ça les portes d'une humanité qui n'est plus que livrée à son exploitation de l'autre, en fait. C'est toutes ces questions qu'il faut résoudre dans Don Juan, en fait. Et je vous assure que quand on l'a mis en scène, enfin, quand on le met en scène avec les acteurs, on a des moments comme ça où on est stupéfait. On se dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Ça, au théâtre, c'est génial.
Qu'est-ce qu'il dit Molière, ou qu'est-ce qu'il dit Don Juan, ou qu'est-ce que disent les autres?
Ouais. Qu'est-ce qu'il dit Don Juan? Et qu'est-ce que fait Molière au moment où il écrit ça? Avec le sentiment, parce que vous savez que la pièce a été interdite, en tout cas que Molière a décidé de la retirer très vite, parce qu'elle lui a valu des anathèmes et une invitation faite par des polémistes, invitation faite à brûler Molière en place publique pour hérésie. Donc vous voyez la dimension de scandale de la pièce. Et quand on la met en scène, il y a des moments où on a la chair de poule parce qu'on comprend que c'est dans cette déclaration-là qu'en effet est le pur scandale de la pièce. Et on se dit, mais comment a-t-il pu avoir l'audace d'écrire un truc pareil au XVIIe siècle? Par exemple, une phrase que dit Elvire. Elle dit « Si le ciel n'a rien que tu puisses appréhender ». On est au XVIIe siècle. Voilà une femme qui dit « Si finalement le ciel est faible, voilà, n'est pas redoutable, alors je m'occuperai moi-même de ma vengeance. » C'est dingue. C'est pas possible, en fait. C'est réellement hérétique, au fond, de dire ça. C'est un blasphème, en fait. Voilà. Et la pièce est faite sans arrêt, comme ça, de déclarations qui mettent à bas le corpus idéologique, théologique, qui est le soubassement du XVIIe siècle, en fait.
Quand vous dites « si c'est un Molière, ce sera celui-là », ça veut dire qu'avant toute chose, avant le désir de monter Don Juan, il y a le désir de monter un Molière?
Il y avait le désir, moi je travaille avec une troupe d'acteurs à laquelle je suis très fidèle, je les adore, et donc régulièrement je relis tout le théâtre occidental pour savoir qu'est-ce que je peux bien monter avec eux qui de nouveau les mettent comme ça au centre des choses. Donc j'ai cette contrainte, un petit peu comme un chef de troupe, de trouver les pièces pour mes acteurs. Et cette fois-ci, j'avais monté des Pirandello, et je me suis dit, j'ai envie de monter un truc comique, j'ai envie d'une grande joie de l'acteur dans ce qu'il peut être dans son enfance, en fait. Voilà. Donc évidemment, j'ai pensé à Molière, parce que c'est toujours... Molière, c'est le meilleur d'entre nous, c'est celui vers lequel on revient quand on a besoin d'être un peu repris dans les bras du théâtre. On se dit, ben, il y a l'enfance, il y a Molière.
Chez vous, pour vous, Molière, c'est l'enfance, quoi. C'est une sorte de l'enfance du théâtre. Mais l'enfance, en tant que c'est, par exemple, l'une des possibles découvertes du théâtre, c'est d'aller voir un Molière avec une classe, par exemple.
Ah, moi, ça a été mon cas, vous savez. J'ai rencontré, dans mon village, une troupe ambulante qui venait jouer la vie de Molière. Et je me souviens que je les ai suivis à bicyclette, parce qu'ils faisaient une petite tournée dans les villages. Et je me souviens que j'avais pris ma bicyclette, et puis je les suivais partout, en fait. pour écouter la vie de Molière, en fait. Donc, et c'est vrai que, bah, vous savez quand même, le théâtre, c'est le jeu. Donc, régulièrement, quand on retombe sur Molière, soit qu'on le relit, soit que dans l'enseignement, on est amené comme ça à faire quelque chose avec des étudiants, des élèves, on se dit, ah non, mais quand même. Quand même, il y a une chose comme ça de la profondeur humaine, mais livrée sur le mode comme ça de la grâce enjouée, une puissance bon comique, gracieuse, et politique mais sans aspérité. C'est quand même un don quoi, de faire réfléchir en riant et de présenter l'humanité dans ses tourments les plus grands, mais en l'absolvant de la douleur. C'est quand même incroyable.
Donc quand on pense à monter un Molière, on pense à un don qui nous est fait par Molière et qu'à son tour, on peut faire à un public le plus large possible.
Oui, c'est ça qu'on pense, ouais. On pense ça. On pense, je pense qu'il n'y a pas de metteur en scène qui monte Molière sans conjoindre immédiatement la pensée du texte qu'il a monté et les figures, donc Don Juan, Tartuffe, et dans le même mouvement, penser à Molière. Je pense qu'on va vers Molière parce qu'on l'aime aussi, l'homme Molière, et qu'on y va comme pour, comme pour se faire du bien quand on est metteur en scène, comme pour se rapprocher de lui, comme pour chercher à lui parler. Je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais assisté à un colloque qui réunissait Ariane Mnouchkine, Antoine Vitez, Planchon, je crois, et Lassalle, sur Molière. J'étais jeune, j'avais 19 ans, 20 ans. Et je me souviens très bien de comment ils parlaient de Molière. Et ils parlaient de l'homme Molière. Qui était Molière pour eux? Presque, comment dire, l'entretien.
J'allais dire une conversation, voilà. À vous entendre. On a presque, mais c'est voilà. Une conversation qui se joue à quel endroit pour vous, Marie-Josée Malice, quand vous dites, finalement, monter Molière, c'est aussi avoir la possibilité de mettre une chaise à côté de lui et de papoter 2 secondes, voire
oui,
plus.
Moi, j'ai rêvé que j'assistais à la mise en scène de Molière, la mise en scène du misanthrope par Molière. Et pendant que je rêvais, je me disais, tu as de la chance, retiens bien tout, parce que tu vois la mise en scène de Molière, du misanthrope. Donc, c'est vous dire si ça. Et, la conversation, elle est, pour moi, par exemple, j'ai relu évidemment le texte de Bulgakov sur la vie de Molière, et alors j'ai pleuré, il y a des moments où on a les larmes aux yeux, puis c'est toujours au moment où le risque du théâtre est pris, c'est-à-dire quand Bulgakov vous raconte le moment où Molière doit jouer devant le roi et puis que c'est une catastrophe parce que ce couillon décide de lui présenter une tragédie plutôt que ce qu'il sait faire, et comment, alors que c'est une catastrophe, ça se passe très mal, comment Madeleine Béjart lui dit mais présente-lui un crayon, une farce que tu as écrite. Il le fait, et alors le roi est pris d'un fou rire, et c'est ce moment comme ça du saltimbanque, en fait, du péril, du funambule, où on joue, oh, je sais pas comment dire, c'est notre vie en fait, on joue le sens même de notre existence, qui n'est rien, qui n'a aucun poids, qui n'a aucune importance au fond, et en même temps qui comporte en elle, qui concentre en elle tout le péril de toutes les existences, mais à blanc, hein. Il y a pas
pour de faux.
Pour de faux, voilà. Et en même temps, c'est si magnifique, ce moment comme ça où on peut tout perdre et en même temps, on peut tout gagner de l'humanité. C'est-à-dire, on peut aussi reconstituer comme ça en une seconde, je sais pas comment dire, une fraternité joyeuse, se sentir ensemble.
Et c'est ça qui vous régénère dans la conversation avec Molière, c'est cette espèce de figure du passé qui dit prendre le risque du théâtre, non seulement c'est possible, mais en plus c'est bien.
Ah oui, mais quand même, une fois de plus, hein, dans Don Juan, le risque, il est pratiquement dans chaque grande réplique. Donc le risque du théâtre, c'est pas seulement, si vous voulez, réussir une pièce, etc. Hein, c'est essayer de pousser le théâtre comme art et comme, comment dire, comme moyen de rendre compte de l'humanité. Le pousser dans sa fonction la plus courageuse, au sens où qu'avons-nous à dire de ce qui nous arrive, qu'est-ce qui nous fera du bien à entendre et qu'on n'a pas pour l'instant le courage d'entendre. Voilà, c'est tout ça. Donc c'est à la fois le côté le funambule comme Chaplin qui vient et qui essaie de voir s'il saura faire rire, puis s'il y réussit pas, c'est triste en fait. Mais c'est aussi un grand péril intellectuel. On a des humains devant nous qui peuvent nous juger à l'instant et on a quelque chose à leur dire. Et puis, et on essaye de dire quelque chose de sérieux, quoi, qui vaut le coup et qui peut ouvrir un sentiment bénéfique pour tous, comme ça peut générer de l'angoisse, de la désapprobation, enfin voilà.
À la seconde où j'ai compris que derrière tout ça, il y avait quelqu'un qui organisait le tout, je me suis dit, je serais cette personne-là. Regrouper tout le monde dans le même projet. Ça, j'ai compris très vite que c'était ça qu'il fallait faire. Parce que sinon, tout le monde va dans tous les sens. Et donc, il y a un côté fédérateur où il faut... Après, j'ai affiné la définition, mais par exemple, il y a toujours un problème qui est de mettre tout le monde à la même, sur la même longueur d'onde, qui est de mettre tous les acteurs ou tous les chanteurs d'arriver à travailler ensemble. Or, comme dans la vie, il y a des gens rapides et des gens lents. Il faut pas admirer les rapides, il faut pas mépriser les lents, il faut les forcer à s'écouter, ce qui est pas simple en général. Et là, le metteur en scène est vraiment important. Au départ, je voulais faire des images. Au départ, je faisais des gouaches dans l'atelier de mon père où je regardais, je décidais les mises en place et je faisais. Et après, je les amenais aux acteurs en disant voilà, c'est ça qu'on va faire. J'ai compris un jour où je m'occupais des acteurs et du texte, ce qui a été récent, le texte. Hein. Je me suis intéressé au texte. Oui, c'était récent.
Marivaux.
Oui, ça a commencé avec Marivaux. Mais le choc le plus... Oui, mais là où j'ai compris l'importance, non seulement l'importance du texte, mais l'importance de la réflexion qu'on a sur le texte, c'est avec Coltès. À cause des monologues, à cause que ce sont des pièces écrites en français aussi. À un moment donné, le théâtre a à voir avec la langue maternelle. Quand on ne fait que des pièces en traduction, on perd quelque chose du théâtre. Et on perd la relation de l'acteur avec sa langue maternelle.
Ça non plus, ça n'est pas de la demi-parole. On entendait tout à l'heure Louis Jouvet, cette fois Patrice Chéreau. Un mois avant sa mort, au micro de Laure Adler sur France Culture dans l'émission Hors Champ en septembre 2013, beaucoup de choses sont dites, peut-être dans un premier temps de sa vocation à être celui qui est derrière et qui organise tout. Marie-Josée Mali, ça s'est présenté comment à vous d'être celle qui est, alors je sais pas où ça se situe pour vous, derrière, devant, avec les comédiens?
Non, moi au début je voulais être comédienne en fait. Pour moi, la plus grande joie du théâtre, c'est le jeu. Et j'ai connu une sorte de crise de doute sur moi-même. Je ne me suis plus cru capable de jouer. Il y avait quelque chose de moi dans le jeu que j'adorais et en même temps qui m'insupportait. Un rapport narcissique, d'amour propre, violent en fait. Que d'ailleurs, tous mes acteurs ont à résoudre, ils le disent tous. Il faut pas croire que les acteurs sont des exhibitionnistes en fait. Les acteurs sont souvent au maximum de la pudeur en fait.
Et donc, et ça reste insupportable de se montrer.
Voilà, ça reste insupportable de se montrer. Hein. Vous le savez, beaucoup d'acteurs ont des grandes crises d'angoisse avant d'entrer sur scène. Et je pense que c'est pas des crises d'angoisse qui sont liées à la question de la performance ou de la réussite. C'est vraiment ce risque dont on parlait tout à l'heure, ce passage où on sort de l'obscurité vers la lumière et savoir si on sera à la hauteur et si on va pas abîmer ça. Des choses qui nous parasitent tous dans la vie. Les choses que nous n'aimons pas de nous-mêmes. Or, nous voudrions en être délivrés au moment du théâtre pour être dans la pureté ou dans la lumière ou dans la splendeur.
Et vous diriez l'idée. Que le théâtre, il délivre de ça? Que c'est possible au moment du jeu?
Ah oui, donc moi, je vous remercie d'ailleurs des archives, elles sont si belles et elles m'honorent en fait. Moi par exemple, je suis pas un metteur en scène de la gouache en fait, je sais pas faire les espaces ou composer les images, c'est pas du tout. Moi je suis une metteur en scène de la direction d'acteur si je puis dire. Et donc ce qui me passionne, c'est justement, et qui m'émeut au plus haut point, c'est presque comme mon carburant en fait, c'est de voir justement l'acteur passer d'un stade comme ça, parasité, stade de l'expression, stade de sa pensée, qui est encore un peu confus, encore un peu pris dans ce que j'appelle le vieux monde en fait, le monde des idées pas complètement élaborées, des clichés, et puis le voir à la faveur d'un travail très précis, telle intonation, tel regard, enfin des choix qu'on fait dans le théâtre, hein, le voir tout d'un coup accéder à la parole poétique en fait, c'est-à-dire lui-même disant enfin ce qu'il a sur le cœur et comprenant que c'était ça qu'il avait à dire. Et que ça, avant de le dire comme ça, il savait pas qu'il pouvait le dire comme ça et que c'était ça qui allait le sauver, le délivrer. Alors on assiste à des choses magnifiques à ce moment-là, hein, on voit les acteurs très émus, on voit leur visage se transfigurer, bon, parfois il y a des larmes ou des sourires qui arrivent, comme si... nous sommes tous porteurs de paroles qui demandent à sortir, ou nous demandons tous à, je sais pas comment dire, à être exaucé, en fait, vu dans ce qu'on a de plus beau. Et au théâtre, ça a lieu. Hein, avec n'importe qui d'ailleurs, hein, avec les acteurs professionnels comme avec les amateurs qu'on rencontre et tout ça. Donc pour moi, c'est ça qui se passe au théâtre, mais qui évidemment est toujours soumis au fait qu'on peut ne pas y arriver. Hein. Alors quand les acteurs y arrivent pas, moi je pense que ce sont des héros de l'éthique en fait. Ils ont un rapport au vrai, à la sincérité est incroyable, si bien que quand ils n'y arrivent pas, les représentations où ils ont chuté, ils ont le sentiment d'avoir chuté, c'est des représentations où après on vit des choses avec les acteurs qui sont infiniment émouvantes parce que ils ont des affects de honte. Ils ont l'impression d'avoir trahi quelque chose. Enfin, c'est incroyable. Donc,
quand vous dites que le théâtre peut ou a pour ambition éventuellement de libérer du vieux monde, c'est assez intéressant quand on prend une pièce de Don Juan, parce que du vieux monde, il y en a, oui, en masse, et notamment si vous dites, Marie-Josée Malis, qu'il convient de se libérer des clichés et des formes intérieures pour voir ce que des formes nouvelles nous portions en nous sans le savoir. Comment vous faites avec un acteur qui doit interpréter Don Juan après tout ce temps et après toutes ces interprétations de Don Juan pour qu'advienne en lui la forme nouvelle du Don Juan qu'il a à dire le soir à Aubervilliers?
Non, mais là, vous touchez en plein dans le mille, parce que ça a été le vrai combat de Juan, qui est un Don Juan incroyable. Vraiment, c'est un acteur, je crois que c'est un acteur rare, hein. Il est peu connu, mais les gens qui le découvrent disent qu'il est extraordinaire. Et en effet, Juan, il avait presque d'abord à déconstruire le costume, je veux dire, la puissance comme ça imagée de Don Juan, la puissance de l'image du séducteur. Juan, en plus, c'est très beau. Donc, il y avait presque un effet de costume. On arrive, on joue Don Juan. En plus, on porte de beaux habits, puisque c'est un.
Que vous mettez en scène avec, voilà, les costumes.
Et oui, mais parce qu'il y a la dimension aussi. Chéreau avait mis en scène un Don Juan marxiste. Hein. Il y a la dimension du maître chez Don Juan, de l'aristocrate possédant. Donc, Juan a eu à combattre toute cette, finalement, le côté puissant du personnage, qui semble être un prédateur. Et aussi, du coup, la prédation du jeu, c'est-à-dire l'acteur qui entre et qui sait qu'il va imposer son aura de Don Juan, qu'il a, qui est fascinant, qui est là pour séduire. Et le personnage et l'acteur sentent ça quand ils jouent Don Juan. Et en fait, ce qu'a dû faire Juan, c'est comprendre que finalement, ce que disait Don Juan était l'inverse. Et que, chez nous en tout cas, Don Juan, se présentant comme un adorateur du monde, et quelqu'un donc qui cherche à se mettre à la disposition de toutes les beautés qu'il rencontre, et qui a comme ça la force politique de dire que chacun, quel qu'il soit, mérite d'être aimé. Donc il y avait un travail de dépossession, de creusement, comme ça, de aller chercher à être démuni, là où le texte, à première vue, semble pousser au contraire
vers la puissance.
Vers la puissance.
Le pouvoir.
Voilà. Et donc, je crois que c'est ce que les spectateurs voient quand ils voient la représentation. Ils voient un acteur splendide qui travaille à se rendre généreux et qui met sa propre beauté au service des autres, en fait, et des autres, et d'une pensée nouvelle, en fait.
Qui et ça, ça passe par quoi, en termes de travail, Marie-Josée Malis, en dehors du propre travail interne et intime mené par le comédien, puisqu'on entendait Chéreau dire être celui qui regroupe, qui cherche une fréquence collective, oui, une fréquence commune pour une troupe, pour des comédiens, pour des chanteuses, pour des chanteurs. Vous êtes à quel endroit pour éventuellement les accompagner vers ça?
Il y a les deux étapes. Il y a cette étape du travail collectif qu'on appelle à la table, mais qui est au fond un travail où on parle ensemble du texte et où commence à se travailler ce que j'appelle moi une subjectivité commune, en fait. C'est-à-dire qu'ensemble, on commence à se donner les éléments de parole, etc.
Qui n'est pas votre lecture, qui devient votre lecture collective.
Voilà, moi j'ai mes intuitions, je suis un peu l'idéologue en fait, le metteur en scène est un peu l'idéologue qui arrive avec des hypothèses en disant voilà, je crois que le texte dit ça et on l'examine en commun. Hein, comme ça d'abord dans un premier travail collectif et je dirais qui brasse large, hein, on lit le texte. Ça commence à nous donner une intuition commune et souvent je dis que faire de la mise en scène c'est faire comme si on était des tournesols qui se tournent vers un même soleil. Chaque texte nous modifie, vous savez, chaque texte modifie le temps qu'on le travaille, notre rapport au monde. Les artistes disent souvent, quand on monte un Pasolini, par exemple, on regarde pas le monde de la même manière. Les phénomènes qu'on voit dans la rue, on les regarde plus de la même manière, on voit des signes partout. Faire une mise en scène, c'est organiser cette sensibilité à de nouveaux signes. Alors ça, c'est collectif. Donc, par exemple, l'hypothèse que je vous livrais, là, de Don Juan ne serait-il pas plutôt celui qui vient rendre justice à la beauté de chaque chose, un peu comme un poète ou un peintre, un peu comme Van Gogh, qui dirait, mais la moindre chose la plus humble mérite d'être exposée et aimée en pleine lumière. Bon, ça, c'est mon hypothèse. On la regarde ensemble. Et après, le deuxième temps du travail, c'est le détail de la direction d'acteur. Et alors là, ça devient très détaillé, c'est-à-dire que ça se joue au mot près. On dit, on commence le travail, moi je regarde les acteurs. Et ce que je fais, c'est que je sens, parce qu'on a des capteurs comme ça, quand l'acteur n'est pas complètement, comment dire, rendu vivant par ce qu'il dit. Quand je sens que ce qu'il dit a encore un potentiel infiniment plus grand d'expression et de vie. Quand Artaud dit que faire du théâtre, c'est modifier ses organes, ça, on le voit très bien chez les acteurs. C'est-à-dire, un acteur qui dit enfin, comme il souhaite le dire, un texte, on voit qu'il change son rythme cardiaque, que ses pupilles se dilatent. Enfin, il y a des phénomènes comme ça. Donc, moi, mes capteurs, c'est ça, c'est que je vois l'acteur encore un peu endormi, et je me dis, que se passe-t-il? Qui a-t-il à délivrer qu'on n'a pas délivré encore? Et on cherche. Alors on dit, tu pourrais faire un silence à ce moment-là, peut-être tu pourrais réfléchir à ce mot. Qu'est-ce que c'est ce mot? Par exemple, la justice, qu'est-ce que ça vient faire ici? Chose comme ça. Et tout d'un coup, l'acteur se met à penser par lui-même. Penser par lui-même, ça veut dire, il se dit, mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, ce que je raconte? Et hop, tout d'un coup, à la faveur à la fois de petits procédés techniques et de procédés de pensée, arrive un chant.
Patrice Chéreau disait, chacun a son rythme évidemment, et il ne faut pas louer plus que ça les rapides et mépriser les lents. Il se trouve que vous faites le choix avec cette mise en scène, Marie-Josée Malis, d'un certain étirement du temps, dans la phrase même, voire des mots, chose qui s'installe dès le premier acte dans la manière dont apparaît Don Juan à nous et le texte. Ça c'est venu à la faveur justement des premières intuitions, quelque chose s'est imposé dans le fait que ça se fera dans une certaine lenteur.
Non, c'est notre travail, toujours. Il a comme cette espèce de patte, en fait, je dirais, qui est presque ma libido, au fond. C'est-à-dire que, comme justement, les acteurs sont amenés à réfléchir par eux-mêmes à ce qu'ils disent et à essayer, à chaque fois qu'ils reprennent le texte, à essayer de mettre à jour pour eux le plan de conséquences affectives et politiques du texte.
Il faut se donner le temps de le faire.
Ils ont besoin du temps pour le faire, voilà, tout simplement. C'est-à-dire que s'ils ne se donnent pas le temps, ils retrouvent un phrasé ou des habitudes de paroles qui sont un peu les clichés de notre vie et aussi les clichés de l'acteur. Donc pour passer ailleurs, chez nous, ça passe par une sorte d'appui sur le frein continuel pour que l'acteur ait le temps de penser ce qu'il dit et de le formuler en nouveauté. Dans certains autres types de théâtre, ce passage ailleurs, hors de la parole disponible et encore un peu empêché, parfois ça passe par de la fulgurance, de la rapidité. Chez nous, ça passe par un calme et un besoin comme ça de signaler régulièrement que là, j'ai besoin de penser ce que je dis. Parce que là, quelque chose de nouveau est à l'œuvre. Et que je peux pas, avec mon corps habituel, ma pensée habituelle, l'aborder. Il faut que je me dispose autrement. Bon. Et chez nous, cette disposition, elle est lente.
C'est marrant parce que cette lenteur-là ou ce calme, pour moi, n'est pas complètement sans relation avec une sorte de certain calme de la représentation ou de l'image. Là, j'entends vraiment en termes de mise en scène, c'est calme, c'est mise à nu, quoi. Les machines du théâtre existent, il y a pas de décor flamboyant. Parfois, il y a une sorte de déroulé d'un menu décor pour simplement suggérer quelque chose. De même pour la musique, elle arrive de loin, elle vient jamais au-dessus du texte, comme si c'était aussi un calme qui trouvait sa traduction dans les hypothèses d'image, Marie-Josée Malis.
Oui, je trouve il y a une grande douceur en fait à faire ce Molière et en effet moi je ne voulais pas puisque moi vous savez mon obsession c'est la dépossession en fait. Mon obsession dans la vie, dans le théâtre en fait. J'essaye de comprendre qu'est-ce qui nous empêche de vivre de manière juste en fait. Et une des hypothèses que j'ai, bon je suis pas la seule, c'est que ce qui nous empêche de vivre de manière juste et donc de générer entre nous des actes justes, c'est que nous sommes trop amoureux de nos possessions. Donc moi, je propose qu'il faut rendre le théâtre un peu moins puissant, que le théâtre nous s'impose un peu moins, comme ça, dans sa force expressive, aux spectateurs, qu'il descende un petit peu, qu'il s'adoucisse, qu'il devienne hospitalier, en fait, qu'il se troue. Hein, et que quelque chose comme ça de sa nudité, de sa tranquillité se remette à l'œuvre, qui permette à chacun comme ça de redevenir un petit peu spectateur philosophe, tranquille, invité comme ça à écouter, à réfléchir, à méditer par lui-même, à entrer, à sortir.
Parce que c'est aussi le cas, il faut dire que à la fois la longueur de la pièce, mais aussi la proposition, voire l'invitation que vous faites au public, fait que ben ça rentre et ça sort, il y a une forme, alors moi j'ai pas eu la chance de le voir in situ, mais dans la captation il y a une forme de relâchement des corps, oui. Dans la manière dont les gens sont là, c'est un relâchement que vous appelez de vos voeux.
Ah moi je l'adore, je pense qu'il faut au théâtre un nouveau rituel, je crois que nous cherchons tous, en tout cas tous les metteurs en scène que j'admire et les chorégraphes sont des gens qui cherchent le nouveau rituel du théâtre, en un sens celui qu'on a il est pas très vieux. Hein, ce rituel frontal, avec la lumière éteinte, etc. C'est un truc, bon, du 18e siècle, à peu près, hein, et encore. Et moi, je crois aujourd'hui que ce qu'il faut, c'est un nouveau rituel, une nouvelle cérémonie théâtrale. Moi, j'essaie de l'agir avec mes moyens, qui sont en effet que petit à petit, bon, j'ai pris l'habitude de laisser la salle éclairée, j'ai prononcé cette cordialité, simple à ma manière, qui est que, bah, puisque le spectacle est long, bah du coup on peut se disposer comme ça tranquillement par rapport à ça et on peut entrer et sortir. Je m'aperçois qu'au théâtre de la Commune les spectateurs maintenant sont habitués et accueillent ça avec grâce, avec humour. Ils viennent et voilà, ils s'installent, ils savent que ils vont avoir à la fois un mode de réception que j'adore, qui est double, qui est à la fois un mode de réception fasciné parce que, enfin très, en tout cas très concentré puisque notre travail est très précis donc demande de la concentration. Et en même temps, un mode de réception qui est mélancolique, enfin comme ça, philosophe, puisque comme la salle est allumée, qu'on voit les autres spectateurs, etc., on peut méditer presque sur le fait que, bah, qu'est-ce que c'est qu'aller au théâtre aujourd'hui ? Voilà, quelle est notre condition de spectateur ? Il y a tout un tas de pensées comme ça. Les gens témoignent de ça, témoignent à la fois du fait que la représentation s'adresse très intimement à eux, les touche très personnellement, par un mode de concentration très précis, et en même temps que ce qui les émeut, c'est de se dire « Mais, oh, alors, oh, j'ai pensé, ah voilà, je suis au théâtre. »
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux.
inventer la vie ou inventer sa vie, c'est toujours surmonter quelque chose de la terreur et de ce choc du réel ou de l'altérité qui nous saisit en naissant et que d'une certaine manière se représente à nous tout au long de l'existence. On peut être à l'acmé de soi-même dans un rapport souvent de révélation, parce que et dans la très grande amitié et dans le grand amour, il y a ce sentiment d'être révélé et révélateur de l'autre et de toucher une vérité au fond et une possibilité d'échange dans cette vérité des corps, de l'être lui-même qui est unique. On a tellement construit autour de cette illusoire qu'au fond, j'allais dire, on ne s'y risque même plus, parce que c'est bien beau de parler de passion et de, mais souvent on n'en a que des ersatz. Finalement, ce sont deux narcissismes qui se conjuguent et qui se demandent l'un à l'autre est-ce que tu m'aimes, et qui évaluent finalement constamment les signes d'amour. Mais je crois que, enfin, ce que je voulais faire l'éloge de ce haut abandon où il y a un moment de non-retour. Alors certes, c'est risqué, puisque on en reviendra, si on en revient, de toute façon jamais le même ou la même. Et il y a donc là aussi un abandon, quelque chose qui ne s'appartiendra plus entièrement de la même façon.
Une forme de dépossession aussi dans la voix de la philosophe et psychanalyste Anne Dufour-Montel, qui était venue à ce micro en janvier 2016 parler de son éloge du risque, peut-être pour aller un peu plus loin dans l'hypothèse que vous faites, Marie-Josée Malice, avec ce don Juan, un don Juan qui se rend disponible à la beauté. Dans ce que dit Anne Dufour-Montel, il y a l'idée de prendre le risque. Alors elle parle de l'amitié passionnée, de l'amour passionné, en réalité de la rencontre, du réel, de l'altérité. Est-ce que vous pouvez aller plus avant dans votre hypothèse? Thèse du don Juan, ce serait celui-ci, celui qui a la force de ce risque-là, le don Juan que vous présentez?
Oui, lui, il dit que pour lui, c'est naturel. Donc il dit, et je crois que c'est l'aspect complètement transgressif de la pièce, qui s'appuie sur la nature. Il dit, au fond, un peu comme va le dire Rousseau un siècle plus tard, il dit, au fond, ce qui nous arrive, c'est toujours l'appel de l'autre, en fait. Ce qui est premier, c'est la pitié. Ce qui est premier, c'est le désir d'aller vers l'autre, la fraternisation, c'est très étrange. Et lui, il dit, ben moi, c'est une pente facile chez moi, je le fais facilement. Il y a du désir tout le temps. Dès que je sais voir, je n'ai pas peur, ça c'est son mérite, je n'ai pas peur de l'autre, et si tout que je le regarde, eh bien je sais qu'il est désirable, je sais qu'il est l'autre tel qu'on doit l'aimer. En fait, donc ça c'est Don Juan qui dit, et il ne cesse pas, vous savez, dans la pièce, de s'appuyer sur la nature. Hein? Et c'est pas la nature basse, hein? C'est pas la nature animale seulement, c'est réellement la nature rousseauiste, enfin je crois. C'est-à-dire celle qui dit, voilà, nous sommes au contact les uns des autres, l'autre est une énigme.
Et vouloir trop vite résoudre cette énigme par exemple du récit amoureux ou une forme d'accommodation à la convention sociale, c'est se mentir et hontément, et c'est simplement se ranger, quoi, voilà. Si on vous suit.
Alors c'est ce que dit Don Juan, il me semble. Il dit, voilà, d'abord soyons exacts quant à la rencontre, soyons à la hauteur de cette première rencontre, bouleversante, passionnée, où la question de l'altérité est là, et pas du tout estompée. C'est l'autre et moi, et voilà.
Dans son énigme, dans sa question, dans son mystère.
Voilà, qui renvoie au fait que nous sommes tous des sujets troués, en fait, hein, que nous avons tous, comme ça, quelque chose de manquant, voilà, et qui ne se remplira pas. Voilà, se remplira pas. Donc Don Juan, lui, il s'en tient là. Alors, ce qu'il dit, qui est très violent, c'est qu'il renvoie aux autres, du coup, la nécessité d'être à la hauteur de ça. C'est-à-dire qu'en effet, il empêche les autres de bâtir ce que vous dites, en fait, le récit. Il n'est pas disponible à ça, Don Juan. Il se retire au moment où l'autre veut commencer à symboliser, à dire oui, mais à partir de maintenant, on va se projeter dans le futur, on va construire. Enfin, quand on essaie de faire quelque chose avec ça, avec l'énigme, l'altérité, Don Juan dit, ah non, non. Moi, ça, je n'y crois pas, parce que c'est de la construction idéologique. C'est beaucoup moins véridique que cette première...
Et d'aucuns pourraient y voir une unique toute-puissance, de volonté de jouer à l'infini. Vous, c'est pas du tout la lecture que vous en faites.
Eh bien, elle y est, n'est-ce pas? Mais il se trouve que dans la pièce, quand même, Don Juan ne cesse pas d'échouer. Donc, je suis dispensée de mettre en scène ce cas de conscience, parce que dans la pièce, vous, et c'est quand même, ça s'interroge, du coup, parce que quand même, ce qu'on voit, c'est une femme sublime, Elvire, venir parler à Don Juan de l'extraordinaire violence de la rupture, et en même temps, continuer à dire que c'est l'amour qu'elle a connu là. Mais après, on voit Don Juan qui est plutôt un tocard, en fait, et qui essaye donc d'enlever une femme, il n'y parvient pas, qui séduit une paysanne, mais qui est contrariée là-dedans par une autre paysanne. En fait, donc on le voit pas dans la jouissance, on le voit pas consommer.
Hein. C'est très inquiet.
Ouais, c'est très inquiet. Et il est très solitaire. C'est un orphelin. Je pense qu'il y a quelque chose dans Don Juan. Au début, vous savez, quand il dit qu'il se considère comme un conquérant, il est comme Alexandre, et il se sent comme avoir un cœur à aimer toute la terre. Il dit un truc génial, il dit « Et je souhaiterais qu'il y eût d'autres mondes. D'autres mondes. » Donc, il y a quelque chose dans Don Juan qui est très conscient, il me semble, que ça ne s'étanche pas. Ne vivra, connaître le désir, être comme une espèce de projectile ouvert à se demander sans arrêt « Mais qui suis-je ? Et suis-je aimé ? Et suis-je capable d'aimer ? » etc. Ça ne s'étanche pas. Ça ne se calme pas.
Ça ne se résout pas.
Non. Donc, il y a évidemment violence de Don Juan. Hein. C'est ce que Chéreau avait mis en scène. Hein, l'extraordinaire Chéreau en avait fait quelqu'un à la fois qui était un libertin génial, sorte de philosophe libertin, mais en même temps quelqu'un de violent, qui n'arrivait pas à proposer au monde une nouvelle manière de vivre qui soit sans violence. Hein. Il y avait la limite de la figure de Don Juan.
Alors que vous en faites quelqu'un qui, ayant découvert la puissance du désir et l'infini de cette énigme-là, la laisse aux autres, mais plus comme un don que comme une violence.
Oui. Moi, je dirais ça, que dans ma mise en scène, c'est ça. Mais c'est aussi parce que, comme pour en revenir à Jouvet, c'est aussi parce que c'est le théâtre que nous sommes capables de faire, nous. C'est-à-dire que c'est
quand
un théâtre...
Quand vous dites « nous », votre compagnie.
Ma troupe et moi. C'est-à-dire que c'est, en effet, quelque chose qui est doux, qui est amical. C'est un théâtre donc qui où ce qui prime, c'est ce que vous disiez, c'est l'allègement du théâtre lui-même. Donc, on n'est pas allé loin dans la violence. Elle est là. On laisse entendre que Don Juan est une figure de haut risque et aussi propose une organisation du monde qui fait souffrir, dont la souffrance doit être dépassée. Par exemple, vous savez qu'à la fin de la pièce, avec la scène avec les deux paysannes, il propose quasiment, il dit au fond, j'aime les deux. Et il propose à chacune de ne pas se soucier de ce que pense l'autre. En un sens, il dit, il faudrait abolir la jalousie, enfin, c'est ce que disait Lacan, hein. Il faudrait qu'on se contente de notre propre souveraineté. Et après tout, si j'aime, c'est bien suffisant. Et peu importe de savoir que l'autre aime ailleurs aussi. Enfin,
avec la résonance particulière, encore une fois, bon, c'est Molière et on est au 17e, mais c'est un homme qui le dit à deux femmes.
Voilà.
Ça n'est pas complètement innocent de voir ça sur une scène.
Non. Ça, c'est toutes les limites hein, qui sont là. Et que, évidemment, moi, je ne veux pas, réduire, en fait. Hein. Et du coup, les spectateurs, quand ils sortent, disent ce que vous dites. Oui, mais quand même.
Bah, si on en fait une lecture genrée, mais parce que là aussi, c'est écrit comme tel et que c'est difficile de faire abstraction de ça. On peut aussi le critiquer et défaire la lecture genrée de ça et n'entendre que ça des faits des hommes et des femmes. Cependant, c'est ce qu'on voit quand même.
Oui, moi ce que j'ai rééquilibré, c'est que je pense quand même que j'ai fait de Elvire un personnage incroyable, à la hauteur de l'héroïsme de Don Juan, ce qu'avait fait Jouvet d'ailleurs. Hein. Donc il faut quand même voir ce que dit Elvire, hein, qui est incroyable, qui est immense. Hein, bon. Donc il y a quand même, à l'intérieur de la pièce elle-même, des facteurs de rééquilibrage, pas complètement compensés. Don Juan est la figure masculine du désir. Mais chez moi, si vous voulez, la violence, elle est là en forme d'esquisse, la violence des questions qui resteraient à résoudre par Don Juan. Et quand même, je dois dire qu'elle est, en esquisse. On a choisi la douceur et on a choisi aussi Sganarelle, en fait. Parce que ma mise en scène, c'est au fond une mise en scène sur le duo philosophique Don Juan et Sganarelle, en fait. Hein. Et donc, la figure d'enfance et de comique de Sganarelle est l'élément aussi de la pièce. C'est-à-dire que on ne voit pas Casanova, on ne voit pas un homme aux prises avec les femmes. On voit un duo complexe.
Qui parle.
Hein, qui parle beaucoup, qui médite, un peu métaphysique, drôle et métaphysique. Et c'est ce duo qui est à l'aventure, qui est picaresque. Et dans cette aventure, il y a donc les rencontres amoureuses. Mais pas seulement, en fait.
Pas seulement, parce qu'il y a aussi, tout à l'heure vous prononciez le mot de justice, il y a toute cette idée du vrai, du juste, et aussi, par la voix d'Elvire, mais pas que, le rapport à la religion, à l'idéologie, oui. Au ciel plein ou vide. Est-ce que pour vous, le fait que Don Juan se retire du possible récit amoureux et de la mise en convention sociale de son propre désir, il y a un miroir avec une sorte d'inquiétude vis-à-vis du religieux. Est-ce que c'est à mettre sinon en miroir, en tout cas en dialogue, Marie-Josée Maïs?
Ah oui, vous avez tout à fait raison, c'est symétrique pour moi. Pour moi, la pièce n'est pas une pièce sur l'amour, elle est une pièce sur l'idéologie et la construction, c'est-à-dire le besoin que nous avons de construire pour, évidemment, calmer
L'angoisse
existentielle qui est l'angoisse dont nous parlions, c'est-à-dire et l'angoisse lacanienne en fait, qui est je ne saurai jamais, je n'arriverai jamais à calmer l'altérité en moi, le fait qu'il y a un trou, quelque chose m'échappe en fait, et à quel point du coup j'ai besoin des autres. Et donc nous avons besoin de récits de construction pour calmer cette angoisse. Donc nous avons besoin de récits religieux, par exemple. Il fut un temps où nous avions besoin de récits politiques, croire au grand soir, je ne sais
quoi. Un temps fini.
Bon, moi, vous le sentez, je n'ai pas renoncé, mais je pense que nous sommes dans une, je dis souvent comme ça, une époque un peu intervallaire, comme on n'a pas de nouvelles hypothèses fortes. Je pense que notre tâche, c'est de travailler à de nouvelles hypothèses, et que ces nouvelles hypothèses doivent être douces, en fait, du coup, pacifiques.
Comme pour ce que vous disiez tout à l'heure du théâtre.
Voilà. Je pense que on ne doit pas renoncer, évidemment, à la justice. Ce serait quand même, avec ça, moi, je pense que si on renonce à la justice, on ne peut pas faire de théâtre, en gros, hein. Donc, pour moi, la moindre des choses, c'est quand même de continuer à croire que la transformation du monde est possible, politiquement. Mais je me dis, bon, voilà, soyons vraiment conscients que si aujourd'hui on faisait la révolution, sans doute qu'on n'arriverait pas à faire quelque chose d'autre ou de mieux que ce qui a déjà été fait. Donc travaillons à voir si on n'a pas de nouvelles idées à construire. Et parmi ça, donc, toutes ces grandes idées sur, au fond, le capitalisme en nous, il existe comme catégorie subjective, c'est-à-dire la possession, le besoin qu'on a de se maîtriser, de maîtriser toute chose. Ça, c'est capitalistique.
Y compris l'autre.
Y compris l'autre, voilà. Et du coup, pour moi, le théâtre travaille à peut-être aider à ce qu'émerge une nouvelle sensibilité.
Mais alors, pour rester sur Don Juan, à la fois conscient que de ce trou-là, de cette angoisse-là, nous avons besoin de le combler par des récits, on va dire des récits momentanés, ce que fait votre mise en scène de Don Juan, c'est dire qu'il faut juste les dénoncer, ces récits-là, mais les dénoncer pas au sens moral du terme, dire ils existent, ils sont construits, prenons-les comme tels.
Prenons-les comme tels. Ce qui était la grande pensée du XVIIe siècle, cela dit. Les XVIIe-mistes, et c'était très touchant d'entendre Jouvet parler des moralistes. Quand on lit le XVIIe siècle, c'est un siècle fascinant qui est convaincu que tout est convention. En fait, au fond. Chez Molière, c'est très clair. Hein, d'où qu'on a souvent dit que la fin des pièces était complètement improbable. Et c'est toujours une manière qu'a Molière de nous dire, à la fin des fins, il nous restera une convention sociale qui va reprendre la main, mais c'est une convention. Hein. C'est pas quelque chose, comment dire, de sacré ou de... Le droit divin est en train d'exploser à ce moment-là. Les types sont simplement en train de dire, bon, au fond, on est obligé d'avoir des constructions. On est obligé, on ne peut pas...
On ne sait pas faire sans.
On ne sait pas faire sans. Mais peut-être, alors c'est là que c'est pré-révolutionnaire, du coup ces constructions que nous sommes obligés d'avoir, alors si on sait que c'est des constructions, on s'aperçoit qu'on peut travailler dessus. Elles ne sont pas imposées par Dieu ou je ne sais quoi. Donc ce sont des constructions humaines. Et après tout, du coup notre tâche c'est de travailler à ce qu'elles soient les plus belles possibles, voilà. Et je pense que la pièce dit ça. La pièce dit ça et nous rappelle... Dès lors que nous pourrions être quand même plus contemplatifs, plus disponibles, plus amoureux.
Je voulais proposer un être qui danse, un être qui, un être de la non-fixation, comme un corps qui ne pourrait jamais être complètement saisi. Et donc c'est cette danse qui c'est une danse d'un dessaisissement constant, permanent, qui va de partout dans l'espace. Quand on a l'impression de l'avoir compris ou de l'avoir un peu attrapé par le regard, il est déjà disparu. Donc c'est pour ça que cette idée du laisse-moi te regarder, c'est pour entretenir plutôt ces jeux de je vous regarde aussi d'ici, parce que je cherche à être là où vous êtes, mais il faut que je reste ici, que j'affirme cette séparation entre nous pour qu'elle puisse nourrir cette volonté de casser cette séparation. On va parler de quatrième mur, j'utilise pas trop cette expression, mais j'aime bien imaginer que tout seul sur le plateau, je fais un groupe d'êtres, une multitude rassemblée dans un corps, et qui est face à un autre groupe, divisé par une pellicule peut-être très fine qui nous sépare, et que ce corps va chercher à briser, à casser, à troubler, tout en préservant cette ligne séparatrice.
Le danseur, chorégraphe, penseur Volmir Cordero, qui était venu ici à ce micro parler de sa pièce Ciel, il dit « Je vous regarde », et juste avant vous disiez, Marie-Josée Malice, il faudrait que nous soyons plus contemplatifs, plus amoureux en somme. Est-ce qu'il y a quelque chose, vous parliez tout à l'heure, de laisser la salle allumée, de travailler une sorte de rapport un peu particulier, politique lui aussi, entre ceux qui jouent sur scène et ceux qui sont là pour regarder, quelque chose qui voudrait s'approcher de ce calme contemplatif dans votre théâtre ou dans cette mise en scène de Don Juan?
Oui, oui, c'est-à-dire créer des conditions comme ça, des conditions d'une nouvelle, enfin d'une pensée commune en fait. Donc c'est pas complètement contemplatif au sens où ça n'est pas le regard passif qui l'emporte, voilà. Ça n'est pas l'image qui l'emporte. Chez moi, c'est plus un effet à quelles conditions pouvons-nous ensemble examiner certaines questions qui sont des questions humaines, donc qui traversent nos corps, qui nous mobilisent, les questions de la, voilà. À quelles conditions pouvons-nous tranquillement, en nous faisant confiance, les examiner? Donc le théâtre que je pratique, en effet, c'est un théâtre qui est complètement reversé vers la salle. Les acteurs s'expriment toujours quasiment vers la salle, comme si ils témoignaient devant la salle de ce que leur fait le texte. Et cette condition comme ça ouverte, reversée, donnée à la salle, mais je crois le spectateur en situation de s'identifier à celui qui parle, on se dit « ah voilà, ça lui fait ça à lui », et d'adopter son rythme, de l'épouser, de le comme petit à petit, de rentrer presque dans le corps de l'autre et essayer de vivre organiquement le même procédé. Voilà.
C'est-à-dire que vous croyez dans une possible transformation de celles et ceux qui regardent par cette expérience-là?
Ah non, mais j'y crois parce qu'elle a lieu, vous savez. En fait, au théâtre, elle a lieu.
J'y crois parce que je l'ai vu, madame.
Oui, oui, c'est vrai. Parce que c'était Meyerhold qui disait, vous savez, le public d'une représentation n'existe pas avant la représentation. Bon, ce qui existe, c'est la salle elle-même, qui est assez confuse, qui est un petit peu représentative de l'état de la société. Avec, il y a tout le monde est là. Enfin,
quand on peut.
Quand on peut, hein. Quand, vous avez raison. Et mais il dit, mais si on a bien travaillé, à la fin, la représentation aura constitué son public. Donc ça, on le sort au théâtre. Il y a les soirs où on n'a pas constitué le public. Les soirs où on a raté la représentation, c'est réellement les soirs où on sent que les gens qui étaient dans la salle, s'ils ne sont pas partis, n'ont pas beaucoup bougé. N'ont pas beaucoup été. Et puis il y a les soirs, et alors vous savez, c'est très matérialiste, hein. Il y a ces phénomènes de coagulation. Moi, je peux vous le dire de l'intérieur d'une représentation, et les acteurs aussi peuvent dire, il y a un moment où on sent dans la salle qu'elle fait corps. Il y a une densification. Et les gens entrent dans quelque chose. Alors, on sent en effet que la représentation produit ce que j'appelle la subjectivité commune. C'est-à-dire, tout le monde commence à se dire, ah, c'est donc de ça qu'il s'agit.
Voilà. Mais tout le monde ne pensera pas la même chose, on espère.
Non. C'est très vrai, hein. Tout le monde se met en disposition d'être au travail devant une idée. Voilà. Et le travail, ensuite, c'est une carburation intime, individuelle. Mais les gens viennent vous voir en disant, ils disent quelque chose de commun, qui est, c'est extraordinaire, cette pièce. Elle fait ça. Et après, leur traduction, et Dieu merci, totalement individuelle, totalement appropriée. Mais on peut sentir le collectif du public se constituer, parfois par de la division d'ailleurs. On sent que le collectif se constitue parce que tout d'un coup la salle se divise. Certains cheminent ensemble et d'autres non. Enfin, mais ça a lieu au théâtre. Hein.
Vous présentez Marie-Josée Malis, votre mise en scène de Don Juan. C'est au Centre dramatique national de la commune à Aubervilliers, et ce jusqu'au 14 octobre. J'ai à dessein pas ouvert le chapitre de la grève qui occupe une partie des salariés de ce Centre national dramatique. Je laisserai à chacun la possibilité de se faire un avis rigoureux et précis si la possibilité leur est donnée. Merci beaucoup.
Merci.
Au son ce soir, c'était Éric Boisset à la réalisation, Lise-Marie Barré. Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h, et quand vous voulez sur franceculture.fr, vous pouvez trouver la référence des archives des musiques diffusées, un endroit pour nous écrire et aussi pour vous abonner au podcast. Merci infiniment à Jeanne Aléos, Romain Debecq de Lièvre, Marianne Chassor et Lou Quevauvillier, qui sont joyeux et qui m'aident à penser et préparer cette émission. Je vous souhaite une excellente soirée sur France Culture.
J'imagine que c'est pour nous tirer vers le haut. Je m'avance pour voir. Ils ont créé une zone de progrès. Le sol est chaud. Ils nous portent sans effort vers les bouches de métro. Les semaines ne pèsent plus. Elles se décollent, puis se recollent sur un calendrier qu'on déroule à l'infini. L'escalator descend dans un rang. Journal à la une, les photos du nouveau quartier avec le nouveau stade, avec le nouveau ciel, avec le nouveau sucre, avec le nouveau son, le nouveau sol, avec les nouveaux muscles, avec les nouveaux siècles, avec les nouveaux cils, la nouvelle soif, avec les nouvelles voix, la nouvelle sève, les nouvelles fêtes, avec les nouvelles têtes. On en voudrait encore, encore, elle coule. Je pense qu'il a quelque chose à voir avec l'enfer. On court dans un gymnase éclairé par des néons jaunis. Dehors, les graffitis pâlissent, même sur les murs les plus faciles. Pour notre sécurité, la nuit se déroulera le jour. Nos pellicules s'entendent pour tomber ensemble et pas nous inquiéter. Je m'inquiète pas, je vais au cinéma.